Bonjour, je suis Awen du collectif des Petits Métalleux. Je fais des interviews pour Radio U. Merci d'avoir accepté notre demande.
Bonjour, je suis Violette. C'est moi, la touche de poésie au milieu de la testostérone juvénile.
D'accord, salut Violette.
Bonjour, je m'appelle Kélène. Pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas ?
D'accord, alors je m'appelle Jérôme. Ensuite, il y a Pierre et Johan. On joue dans Year of No Light.
Vos albums sont rares, vous avez de nombreux autres projets, y compris extra-musicaux. Mais devant l'accueil reçu par votre groupe, n'avez-vous jamais eu envie de développer plus profondément Years of the Night ?
C'est une bonne question. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de plan professionnel pour le groupe. Et du coup, on fait un peu les disques comme on peut, avec les questions de quotidien. On n'est pas, c'est un groupe qui est semi-professionnel et qui a un fonctionnement qui n'est pas forcément celui d'un groupe plus classique, avec l'intermittence, etc. Comme on tourne beaucoup à l'étranger aussi, du coup, y a pas l'intermittence est assez difficile à mettre en place, mais voilà, c'est un groupe qui a son rythme, qui a un rythme un peu particulier, qui est dû aux aléas de la vie, au collectif, au fait que ça soit un groupe avec beaucoup de monde, que ça soit un groupe qui a aussi un fonctionnement assez démocratique. Donc tout ça, ça engendre tout un tas de problématiques qui fait qu'on sort des disques assez rarement. Et il n'y a pas de projet de professionnalisation, il n'y a pas de marketing, quoi.
Après, on a toujours envie, malgré tout, d'aller plus en avant et de continuer notre route, quoi. Voilà, et d'approfondir tout ce qu'on a pu faire.
Tout comme vos albums, vos tournées sont assez rares, sous l'exception 2023. N'est-il pas trop dur et fastidieux de préparer un spectacle pour un nombre de dates assez limité ?
C'est toujours assez fastidieux, effectivement, de préparer des concerts, de manière générale. Il y a tout un tas de problématiques qui sont bassement matérielles, c'est-à-dire trouver un local de répétition, pouvoir répéter avec son propre matériel, qui est souvent assez encombrant. Après, effectivement, comme on n'est pas vraiment dans une dynamique professionnelle, on tourne peu. On essaie de bien tourner, c'est-à-dire de trouver des choses qui aient un peu de sens pour nous au niveau des concerts. Mais oui, c'est toujours une vraie problématique logistique. Je pense que le temps et l'espace et les moyens restent les problématiques des groupes. Donc quand t'as 20 ans d'expérience effectivement sur un groupe, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'énergie. Et du coup, je crois qu'on rechigne plus tellement à mettre de l'énergie, même si c'est que pour 15 dates par an, quoi. Donc je pense que ça nous va comme ça. Après, si on pouvait tourner plus, peut-être qu'on le ferait. Mais encore une fois, c'est une problématique il y a le nombre, hein, et il faut travailler, il faut s'occuper de sa famille, il faut survivre à la modernité, donc voilà quoi.
Non, rien à rajouter, sinon que oui, si on pouvait, on aimerait tourner un petit peu plus, quoi. Mais comme disait Jérôme, on est contraint un petit peu par les aléas de la vie et les attaches et les pesanteurs du quotidien, quoi.
Vous êtes parfois classé post-metal ou post-rock. Pourtant, pour autant que je le sache, le metal est loin d'être fini. C'est un univers en constante évaluation qui ne cesse de se nourrir de nouvelles influences. Mais si vous êtes post, vous êtes également forcément hanté quelque chose. Dès lors, selon vous, qu'y a-t-il après la mort annonce par Gene Simmons, vous avez 4 heures.
Je pense qu'en fait, il n'y a pas de mort de la musique. On peut voir l'évolution du groupe, effectivement, à travers le prisme un peu post-metal, post-rock. Alors pour notre génération, déjà, post-rock, ça signifie quelque chose qui n'a rien à voir avec le post-rock actuel, qui est plutôt ça correspondait, pour nous, dans les années 90, à des groupes comme Tortoise, qui avaient plutôt l'influence krautrock, free jazz. Donc du coup, quand on a démarré Year of No Light, je pense qu'on était peut-être un peu plus influencé par des scènes musique extrême qui sont peut-être pas les mêmes référents qu'aujourd'hui. Je pense à des groupes comme Neurosis ou Unsane. Pareil pour le métal, en fait, on n'écoutait pas tant de métal que ça, même si on écoutait Dark Throne, même si on écoutait des choses un peu confidentielles, beaucoup de Funeral Doom, de choses comme ça. Donc effectivement, pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens, ce truc de post-rock, post-métal. On s'est retrouvé un peu par accident là-dedans. Je pense qu'en fait, on fait une espèce de musique immersive, psychédélique, lourde, sonique. Et en fait, c'est plutôt de cet ordre-là. Donc finalement, s'il fallait chercher une grosse influence, ce serait peut-être Pink Floyd, en réalité. Et après, effectivement, on est des enfants des années 90, donc on a été extrêmement marqués par Nirvana, qu'on voyait au journal télé. Et quand tu as 15 ans et que tu as Nirvana au journal télé, un groupe comme Nirvana ne pourrait pas, à l'heure actuelle, être médiatisé comme il l'a été à cette époque-là.
Je me souviens de Sepultura, nulle part ailleurs.
Voilà, c'est Slayer. Slayer. Donc c'était vraiment... on parle de diversité aujourd'hui, en réalité, la diversité culturelle était peut-être plus importante ou plus représentée dans les grands médias à l'époque. Et c'était vraiment très... c'était fascinant, je crois, pour des gamins, et ça nous a donné envie de faire de la musique. Hein. Je pense qu'on est vraiment des enfants de Sonic Youth, de Nirvana, mais aussi de Bon An Mal An, de Black Sabbath aussi, de Led Zeppelin, de Pink Floyd.
C'est vrai qu'on a été, enfin voilà, c'est un truc de journaliste aussi, sans vouloir être péjoratif, mais de labelliser les groupes en post-metal, en quelque chose, quoi. Mais comme disait Jérôme, je crois que ce qui est important, c'est la dimension psychédélique ou onirique de notre musique, quoi. C'est vraiment ce qu'on cherche à mettre en place, quoi.
Dans les festivals, nous sommes de nombreux fidèles réunis autour du métal. Nous sommes légion, nous sommes variés et tous différents. Pourtant, ici, nous sommes un. Au-delà de la musique, il y a une fraternisation particulière. Selon vous, quels sont les points dominateurs communs du métal ?
Moi, je pense que pourquoi les gens s'attachent à certaines esthétiques. Dans le métal, il y a des récurrences, il y a tout un tas de références, à toute la part un peu obscure de ce qu'a pu produire artistiquement l'humanité, et que ça soit à travers le prisme religieux ou comme ça. Donc on joue beaucoup avec les codes. Il y a quelque chose qui est entre la transcendance du carnaval, le fait de s'attaquer à ce qui paraît obscur pour y trouver peut-être une forme de lumière aussi. Pour moi, en fait, il y a quelque chose de récurrent dans le métal et qui fait vraiment écho à l'histoire de l'art, c'est la question de la vanité. La vanité en peinture, c'est ces peintures où on a des espèces de natures mortes avec des têtes de mort, des mouches, des fruits pourris. Et en fait, je pense que le métal, dans une certaine mesure, et une continuité de cette forme artistique, mais par la musique et par aussi la culture de manière générale, c'est-à-dire la façon de s'habiller, la mise en scène, la vidéo, les pochettes de disques. Donc moi j'aurais ce regard-là sur le métal. En tout cas, c'est ma porte d'entrée à moi, et c'est ce qui fait qu'effectivement je me sens à l'aise dans cette communauté et quelque part parmi la multitude, quoi.
J'ai été surpris cet été dans un musée. Nous y sommes entrés un peu par hasard, mais nous avons tous flashé immédiatement sur les œuvres. À la sortie, nous nous sommes aperçus que beaucoup des artistes qui exposaient, ainsi que les propriétaires, évoluaient autour de la scène métal. Il y avait par exemple Luan Lossel qui peint pour Alceste, ou Seth Anton Sirou de Septic Flesh. J'ai l'impression que le métal est beaucoup plus profond qu'une suite d'ondes sonores. C'est tout qui s'imprime dans toutes les formes d'art, graphiques, corporelles ou vidéo. Nous sommes communes à un grand nombre de métalleux. Pensez-vous qu'une esthétique métal plus large que le métal puisse être définie ?
Alors oui, y a quelque chose qui est quand même assez étonnant, c'est on a pu assister depuis une quinzaine d'années à une certaine récupération, notamment dans l'art contemporain, des codes du métal. Là, on l'a vu, ouais, même je pense à Stephen O'Malletson qui a vraiment un pied quand même vraiment dans l'espèce d'environnement de l'art contemporain. Donc oui, je pense qu'en fait, les sous-cultures, hein, le métal est une sous-culture, finit toujours aussi par, quelque part, parasiter, de manière positive, la culture plus large. En fait, on a besoin d'expérimentation, on a besoin de formes extrêmes pour, quelque part, alimenter aussi le mainstream. Hein, il y a une espèce de vase communicant comme ça. Et oui, c'est de toute manière, ça revient que je disais tout à l'heure par rapport à la vanité, c'est quand même des questions universelles en réalité. Ce que porte le métal, hein, de manière générale, c'est des questions universelles, c'est-à-dire bah, les mythes, la question des mythes, la question des monstres, la question du carnaval, du déguisement, la question du bruit et de la transe. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui sont complètement universelles. Donc le métal, il est déjà là dans la musique traditionnelle, avec de la vielle à roue, il est déjà là, dès que l'humanité a commencé à produire des sons, en réalité, il y a énormément de ponts entre... Bah, il n'y a qu'à voir ce que... Il y a des groupes un peu qui sont déjà un peu mainstream, je pense à Heilung, Heilung qui joue sur ces codes de « on tape sur des os », etc., ce côté-là, donc ça ne vient pas de nulle part. C'est, donc oui, en réalité, il n'y a pas de rupture par rapport à ce que fabrique toujours l'humanité. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on fabrique ces choses-là, quoi ? Pourquoi on s'invente ce genre de choses ? Pourquoi on invente des groupes comme ça ? Pourquoi on fait du bruit ? J'ai des réponses, si vous voulez. Moi, je pense qu'on fait ça parce que ça nous permet de se confronter au vide, en fait.
Après, une si belle démonstration que rajouter, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on peut parler de culture métal aussi, qui se décline selon différents médias, selon différentes sensibilités aussi, quoi. Donc, c'est sûr que le métal ne se réduit pas à la musique, quoi. Mais encore une fois, comme disait Jérôme, il s'inscrit aussi dans une perspective un petit peu plus longue et plus large, quoi. Et je pense que, voilà, on n'a pas fini non plus de voir les évolutions de ce style-là, quoi.
J'aime bien penser à une fréquence, de vibratoire.
Oui, c'est ça.
Qui nous touche, qui touche une petite.
Ah oui, ça c'est un truc. Alors, la psychoacoustique essaye de l'étudier, de le cadrer. Bon, moi je pense qu'il faut laisser il faut laisser la magie tranquille, quoi.
Si on s'affiche métalleux, on est souvent ostracisé et caricaturé. Mais ici, on intègre un groupe éphémère qui est aussi bienveillant que ce genre est agressif. Cette musique est une forme de catharsis qui adoucit les mœurs. La violence contrôlée du pit aide ses participants à se sentir bien, à se souder. Souvent, les gens ne veulent pas me laisser rentrer dans les pogos. Ils ont peur d'y voir des adolescents qui leur paraissent fragiles. Il faut qu'on perde leur fascine que j'y suis autorisé. 5 minutes après, ils s'éclatent avec moi et ils finissent par me reconnaître. C'est un peu comme pour les tribus amazoniennes, une sorte de rite d'initiation. En ce sens, on rejoint un peu votre projet Les Maîtres Fous. À quand une étude ethnologique sur l'étrange tribu des gars habillés en noir et aux cheveux longs ?
Je crois que ça existe déjà. Oui. J'ai oublié le nom de ce sociologue qui a travaillé pas mal sur le Hellfest aussi. Voilà, oui, c'est ça. Qui a travaillé là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'est un objet... on peut parler de tribu, c'est vrai. C'est un objet d'étude qui est... Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là, ouais, de pèlerinage qui est super importante, quoi. Mais c'est vrai qu'on... Dans ce côté un peu, alors pas secte, quoi, mais de communauté bénéficiant d'un rite d'initiation, effectivement, ça se rapproche un petit peu de notre projet Les Maîtres Fous, quoi, où, à partir du documentaire ethnographique de Jean Rouch, on travaillait sur un mouvement qui s'appelle les Aouka, et on en suivait un petit peu leur processus de transe, quoi, et la manière dont ils intériorisaient aussi les contraintes de la colonisation pour mieux les conjurer, quoi. Et je crois aussi dans le métal et dans cette communauté-là, il y a aussi une manière de conjurer aussi les pesanteurs, les lourdeurs ou la laideur du monde aussi.
Ouais, c'est ce qui est laid peut être beau en fait.
C'est
extrêmement subjectif, ça change selon les cultures et il y a plein de choses. En Occident, on a eu tendance aussi à beaucoup sacraliser l'art, à avoir une certaine idée de la beauté, alors que dans d'autres cultures, la beauté est peut-être un peu plus fonctionnelle aussi. Elle accompagne beaucoup plus, elle est beaucoup plus rituelle. Donc voilà, les cultures sont très paradoxales, elles sont vecteurs d'humanité, elles sont vecteurs d'identité, elles sont vecteurs de conflit, elles sont vecteurs aussi d'évolution, parce que les rencontres culturelles font qu'il y a du progrès aussi. Donc ouais, je sais pas.
Merci du temps que vous nous avez accordé. Vous me verrez sans doute devant votre concert. Je veux essayer mon premier sleigh.
Merci Violette.
Merci Violette.
Merci à vous. À vous tous les trois, c'est vraiment chouette de vous voir travailler là. C'est génial, quoi.